Une interpellation qui tourne au fiasco. Le commandant Charcot se lance alors dans une enquête dangereuse et éprouvante, en dehors de tout cadre légal. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille et à vous confronter au pire de la nature humaine. La faille de Franck Tillier est disponible aux éditions Pocket.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du tueur de la gare de Perpignan. Un épisode de Faites Entrer l'Accusé, écrit et réalisé par Nicolas Glimois. Rédactrice en chef, Isabelle Clairac. Bonne écoute.
Voilà plus de 30 heures que Jacques Ranson est en garde à vue, et toujours pas d'aveu. Alors les policiers tentent un coup. Ils l'emmènent dans le quartier de la gare, et notamment rue Ningesser et Colli, où l'on a retrouvé le corps de Mokhtaria.
Pour être honnête, Ranson, sur place, il reste impassible. Il dit non, truc. Et quand on rentre au service, on est un peu pessimiste sur les dernières heures, puisque la garde à vue se terminait le lendemain midi.
Et donc je rentre chez moi, avec un rendez-vous pris pour le lendemain matin, et je vais être rappelé assez rapidement pour revenir à la PJ. Bon, on l'avait mis au repos, mais on l'avait autorisé à fumer. Certains enquêteurs sont allés fumer avec lui, l'ont accompagné, ce qui est classique. Hein. Et c'est une enquêtrice, hein. C'était la seule femme d'ailleurs de l'équipe à cette époque-là, qui au détour d'une conversation, alors en lui parlant de ses enfants, en lui parlant de que sais-je, en tout cas va l'amener à infléchir sa position et à reconnaître les faits.
Jacques Ranson a craqué. Enfin. À 2h54, on le sort de sa geôle pour une sixième et ultime audition. Cette fois, c'est la bonne.
Et donc, il va être entendu pendant 2 heures ou 2h30. Et là, on voit quelqu'un qui se libère.
Jacques Ranson raconte en détail ce samedi 20 décembre 1997. La pluie qui tombait ce soir-là. Le blouson en cuir marron de Mokhtaria.
Il nous dit qu'en fait, il se promenait sur ce boulevard. Il redescendait en fait depuis le haut et sur le trottoir opposé, au niveau du terrain vague, il voit arriver donc cette jeune fille. Là, il traverse la rue, il s'approche d'elle, il la menace avec un couteau tout de suite. Il l'amène sur le terrain. Là, sous la menace du couteau, il l'oblige à se déshabiller et il commence à vouloir la violer.
Stéphanie Pradel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
Il va la tuer parce qu'elle crie. Et elle dit « je vais appeler la police », elle se débat. Et donc il dit « elle reculait sur les coudes » et donc du coup il n'a pas réussi à la violer. Il a tenté mais il n'a pas réussi à la violer. Il va la tuer parce que justement elle ne se laisse pas faire.
Jacques Ranson explique qu'il a mutilé Mokhtaria sur place, avec son couteau à lame repliable. À la lueur de la pleine lune. Pour pas qu'on retrouve mon ADN, j'ai mis ce que j'avais découpé dans un sac plastique.
C'est une explication, je pense, entre guillemets, de confort. Ça permet de donner une utilité, en fait, à l'acte. Encore une fois, il n'est pas parti avec un bras ou un pied. Hein. Ce sont quand même des zones sexuées. Elles sont pas, les endroits choisis ne sont pas neutres. Et il y a certainement un plaisir sous-jacent à ces découpes.
Le sac dans une main, les chaussures de Mokhtaria dans l'autre, Jacques Ranson a quitté le terrain vague. Le sac, il l'aurait jeté dans une bouche d'égout derrière la gare. Avant de rentrer, sans paniquer, sans croiser personne. Dans sa chambre d'hôtel.
C'est tombé sur Mokhtaria Shaïm, ça aurait pu tomber sur une autre. C'est un opportuniste.
Laure Moisset, journaliste, La Dépêche, L'Indépendant.
Nous, on reste glacés quand on le voit, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas lui. Et on est effrayés, parce qu'on se dit, première chose, qu'en fait, il était là, tout ce temps, il vivait à Perpignan, dans un secteur pas très éloigné de la gare, et que, en fait, on l'avait sous la main. Et puis, il ne correspond pas du tout au profil que l'on avait imaginé.
Bonsoir et bienvenue à tous. L'affaire des disparus de Perpignan, l'homme placé en garde à vue depuis avant-hier, a avoué le meurtre d'une des jeunes femmes commis en 1997.
Gilles Soulier, police judiciaire de Perpignan.
C'est le dossier qui me tenait particulièrement à cœur. Et puis évidemment, quand on reçoit les familles régulièrement au service et que malheureusement, au bout d'un certain temps, on n'a plus grand-chose à leur dire, je vous garantis que ce sont de longs moments de solitude.
Jacques Ranson est mis en examen pour le viol et l'assassinat de Mokhtaria Shaib. L'arrestation du tueur fait la une de la presse. Et devant ce visage aux dents gâtées qui s'affiche dans les journaux, une femme manque de défaillir. Quelques jours après la mise en examen de Jacques Ranson, Sabrina contacte la police judiciaire. Elle a reconnu l'homme qui a failli la tuer 16 ans plus tôt, le 9 mars 1998, au pied de son immeuble.
Maître Étienne Nicolou, avocat des parties civiles.
Elle dit, mais je suis sûr que c'est lui, celui qui, ce soir-là, m'a ouvert le ventre depuis le pubis jusqu'au sternum, en me disant qu'il allait m'égorger. Mais c'est lui, c'est sûr.
Capitaine Vincent Delbraille, de la police judiciaire de Perpignan.
Alors là, on était un petit peu surpris, parce que cette affaire-là, j'ai eu connaissance. Cette affaire-là a été traitée par le commissariat, qui a transmis une vaine recherche au parquet, quelques mois après, et l'affaire a été classée.
Gilles Soulier, PJ de Perpignan.
La difficulté, c'est qu'à l'époque, la police judiciaire n'est pas informée de cette affaire-là, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'affaire de fille de la gare au mois de mars, puisqu'on est entre Mokhtaria et Marie-Hélène. Et je rappelle que dans Mokhtaria, toutes les investigations se dirigent sur Palomino Barrios. Donc il n'y a pas de raison de s'intéresser à quelqu'un d'autre.
Sabrina raconte. L'homme ivre sous le porche de son immeuble. Les coups de couteau. La mort si proche. Le traumatisme. Inaltérable.
Stéphanie Pradel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
Elle dit des choses incroyables, c'est-à-dire que ensuite elle est devenue maman, elle avait une cicatrice au niveau de l'abdomen extrêmement importante, et quand elle était enceinte, elle avait peur que la cicatrice lâche, et c'était son angoisse pendant ses grossesses.
On aurait pu, à ce moment-là, arrêter Jacques Ranson. Lorsqu'il agresse Sabrina, il lui dit « Je viens de fêter mon anniversaire aujourd'hui avec des amis à Saint-Charles où je travaille. » Donc on aurait pu, par une simple recherche, en se rendant à Saint-Charles, savoir qui avait fêté son anniversaire ce jour-là.
Et aussi constater que Jacques Ranson n'habitait qu'à quelques dizaines de mètres de Sabrina. Terrible raté.
Et trois mois plus tard, Marie-Hélène Gonzalez disparaît et est retrouvée morte avec les mutilations que l'on sait.
Ce dossier, on ne sait pas pourquoi, au lieu de déboucher sur une ouverture d'information judiciaire, va faire l'objet d'un classement sans suite. On ne sait pas pourquoi, je n'ai aucune explication à vous donner. Et on n'a pas réussi à retrouver l'identité du parquetier qui a signé ce classement sans suite, parce qu'il y a juste une signature, il n'y a pas de nom. Voilà, on ne sait pas qui a classé et encore moins pourquoi.
Quelques semaines plus tard, Sabrina désigne Jacques Ranson au milieu d'une planche photo, sans la moindre hésitation. Extrait de prison pour une nouvelle garde à vue, l'homme finit par avouer à la troisième audition. Quand il l'a vue, il s'est dit « Je vais me la faire, je vais lui faire l'amour, la violer. » Mais moi, je dis « Lui faire l'amour. » La tentative de meurtre sur Sabrina est prescrite, le dossier est clos depuis 17 ans. Mais la justice va rompre cette prescription en vertu d'une jurisprudence déjà utilisée dans le cas Fourniret.
Ce principe de connexité permet en effet de rapprocher des faits qui s'inscrivent dans le cadre d'une série de crimes similaires. En juin 2015, Ranson est donc mis en examen une deuxième fois pour l'agression de Sabrina. Et la justice va maintenant aller le chercher sur le meurtre de Marie-Hélène Gonzalez.
Stéphanie Pradel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
On voulait vraiment qu'il reste dans cette logique d'aveu, et donc tout de suite on le reprend, parce qu'effectivement, sur Marie-Hélène, on n'a rien. Pas un ADN, pas un témoignage, rien.
Maître Xavier Capellet, l'avocat de Jacques Ranson.
Comme j'ai dit Jacques Ranson, de toute façon, au point où on en est, on a Moctaria, on a Sabrina. Je lui explique également qu'on a en face aussi de nous des familles de victimes qui depuis des années attendent des réponses.
Capitaine Vincent Delbreil, de la police judiciaire de Perpignan.
On n'a même pas eu besoin de discuter. Tout de suite, il nous a dit oui, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui l'ai tuée. Tout de suite, c'était première audition, donc il passe aux aveux.
Dans la foulée de ses aveux, la juge organise une reconstitution du crime de Marie-Hélène.
Maître Étienne Nicolo, l'avocat des parties civiles.
J'ai assisté dans ma carrière professionnelle à de nombreuses reconstitutions et aucune ne m'avait marqué comme celle qui a été faite pour le meurtre de Marie-Hélène Gonzalez. Quand on demande à Ranson de refaire le crime de Marie-Hélène Gonzalez, il se précipite comme un fou sur le mannequin, arrache les vêtements qui avaient été mis sur ce mannequin. Il est agressif. On a l'impression qu'il revit ce qu'il avait fait à l'époque.
Au mois de juin, comme à l'époque. Il fait chaud comme à l'époque. Sauf que là, Jacques Ranson, il arrive, bon, il a quelques mois de détention dans les jambes, il a pris du poids. J'ai pas du tout eu l'impression qu'il y trouvait le moindre plaisir, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, mais pas du tout, à aucun moment.
Pour interrompre les hurlements de sa victime, Ranson s'est emparé d'un câble dans le vide-poche. Et il l'a étranglé.
Stéphanie Pradel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
À certains moments, il y avait son regard se voilait, il basculait. On était avec lui en 98, quoi. C'était vraiment ça. Et on a compris aussi l'effroi qu'a pu ressentir Marie-Hélène.
Ranson sort alors le corps de la voiture pour le découper. À la lumière de la lune et du plafonnier.
Capitaine Vincent Delbreil, de la police judiciaire de Perpignan.
Il nous explique qu'il a mis dans des sacs poubelles qui se trouvaient dans sa voiture, les mains et la tête. Et qu'en roulant sur une route, il avait jeté par la fenêtre les sacs contenant ces morceaux de corps.
Et Ranson confesse un détail macabre qui stupéfie les policiers et les magistrats.
Il dit, mais pourtant, je me souviens que j'avais les cheveux qui s'étaient pris dans des épineux.
Stéphanie Pradel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
Et ses pieds dépassaient sur le sentier, et donc j'étais convaincue de lui avoir coupé les pieds. Ce qui est quand même pas un détail anodin. Et s'il le dit, c'est que... Surtout que, encore une fois, la zone n'a pas changé, il n'y a pas d'épineux à cet endroit-là. Donc manifestement, il parle d'une autre scène de crime.
Un autre crime, qui ne peut pas être celui de Tatiana Andujar, la dernière des disparues de la gare de Perpignan. Puisqu'en septembre 1995, Jacques Ranson était en prison à Amiens.
Pour Moctaria et pour Marie-Hélène.
Marie-Josée Garcia, la mère de Tatiana Andujar.
C'était un sentiment de satisfaction totale pour la famille, les familles des victimes. Et en même temps, j'ai eu un moment égoïstement, de me dire « mince, je vais être toute seule maintenant. Voilà, il ne reste plus que Tatiana ».
Une quatrième victime, Najet, rejoint en revanche Mokhtaria, Marie-Hélène et Sabrina. Car les policiers ont retrouvé une agression sexuelle non résolue, 4 jours après l'arrivée de Rançon à Perpignan. Et là encore, il avoue, c'est bien lui qui a agressé cette femme de 18 ans en septembre 97. L'heure du jugement sonne le 5 mars 2018, 20 ans après la mort de Mokhtaria. La foule se presse au procès de Jacques Rançon. La cour d'assises de Perpignan a été spécialement réaménagée pour l'occasion. Tout le monde veut voir le monstre.
Thibaut Solano, auteur du livre « Les disparus ».
Il a cette espèce de t-shirt orange qui fait penser à un prisonnier américain. Il a ce visage cireux, un peu jaune, effrayant. Puis surtout, vous pensez aux victimes. Vous pensez à celles qui ont vu cette face épaisse comme étant la dernière image de leur vie. Et là, forcément, ouais, c'est quelque chose d'inoubliable. Hein.
À quelques mois de la retraite, l'avocat Étienne Nicolo va pouvoir porter, in extremis, la parole de toutes les victimes.
Maître Étienne Nicolo, avocat des parties civiles.
Pendant 20 ans, je me suis battu aux côtés des familles pour que l'on sache la vérité. On y est arrivé. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on n'ait toujours pas découvert ce qui est arrivé à Tatiana Andujar.
Marie-Josée Garcia, mère de Tatiana Andujar.
C'était très important pour moi d'être à ce procès. Marie-Hélène, c'était un peu ma deuxième fille. C'était terrible pour sa famille. Donc je ne pouvais pas ne pas être là. Mais ça a été le procès de l'horreur. Vraiment, ça a été le procès de l'horreur.
Dans le box, celui qui se décrit comme malade fait pâle figure. Dans 4 jours, l'accusé fêtera ses 58 ans. Il apparaît ravagé après ses 3 ans et demi de détention.
Thibaut Solano, auteur de « Les disparus ».
Quand il prend la parole, quand vous entendez sa voix, un peu éteinte, un peu cet accent picard, vous êtes pendu à ses lèvres, quoi. C'est-à-dire, vous attendez de voir ce qu'il va dire. Et il dit que des banalités, quoi.
Maître Gérald de Brivet-Gallo, avocat de Jacques Rançon.
Le mystère Jacques Rançon demeure, effectivement. Et c'était l'objectif aussi de cette cour d'assises, que de pouvoir approcher ce mystère. Et je crains que nous soyons encore sur notre fin.
La psyché de Jacques Rançon reste un angle mort, dont les experts psychologues et psychiatres ont pu éclairer certains recoins.
Docteur Daniel Cani, expert psychologue.
Jacques Rançon, c'est un psychopathe. Voilà, un vrai de vrai. Sans où on a une absence totale de culpabilité, une banalisation des actes, une impulsivité terrible, une répétition des actes, et une absence totale d'empathie pour le mal qu'il a pu faire.
L'instruction a montré qu'il avait commis sa première agression sexuelle à l'âge de 16 ans. Une fille de la Somme qu'il a essayé d'étrangler. Une affaire restée sans suite. Mais c'est sans doute dans les tréfonds de son adolescence que réside une partie du mystère.
Les filles ne voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais le petit malheureux du village. J'étais donc pauvre, pas aimable, pas beau. Et donc, je vais essayer de voir si une fille veut bien jouer avec moi. Elle est là, la quête de Rançon. C'est une quête impérieuse. Jamais le mot viol n'est prononcé chez lui. Donc soit elle me laisse lui faire l'amour, soit elle se refuse, et à ce moment-là, elle me renvoie au pauvre petit malheureux que j'ai toujours été, et la blessure narcissique est tellement insupportable que je vais la tuer pour effacer ce regard dépréciatif.
Et ses découpes, ses mutilations post-mortem.
Je pense qu'il est parti avec ce que moi j'ai appelé des trophées. C'est-à-dire que je n'ai pas pu me rendre maître de cette femme, donc je pars avec ses attributs sexuels, ce qui est une autre façon de la posséder.
La cour !
Les jours d'audience s'écoulent. Et au fil du procès ressurgit la mémoire de toutes les victimes, superbes, dans leurs 20 ans.
Maître Étienne Nicolo, l'avocat des parties civiles.
Il y a des moments dramatiques lorsque défilent sur l'écran les photos de ces jeunes femmes pleines de vie qui montrent ce qui est parti, ce qui a disparu.
Maître Gérald Brivet-Gallo, l'avocat de Jacques Ronson.
Je me souviens d'un moment particulièrement troublant et émouvant. C'était un petit film qui avait été fait lors d'une fête où Moctaria participait. Et la première scène, c'est cette image de dos et elle se retourne. Et là, effectivement, il y a un frisson qui parcourt la salle parce qu'elle nous regarde. Et je demandais à Jacques Ronson, je dis, regardez-la, elle nous regarde. Qu'avez-vous à lui dire ? Maladroitement, il a dit que ça lui déchirait les entrailles. C'est pas vraiment la réponse que j'attendais.
Sur un ton mal assuré, Ranson relate ses crimes dans un silence de cathédrale. Et face au regard absent de l'accusé, la haine et la colère explosent.
Laure Moisset, journaliste, La Dépêche, L'Indépendant.
Il y a des moments marquants. On a quand les frères de Marilène Gonzalez et le frère de Moctaria Chaïb passent par-dessus la rambarde, se jettent sur le box pour tenter d'attraper Jacques Ranson par les petites fenêtres qu'il y a dans le box.
Les policiers s'interposent, d'autres arrivent en renfort. L'incident ne dure que quelques minutes, mais dans la salle d'audience, c'est l'émoi.
Maître Xavier Caplet, avocat de Jacques Ranson.
Quand on a des parties civiles qui viennent s'en prendre physiquement à un accusé dans son box et que strictement personne ne réagit, et notamment pas le président de la cour d'assises. Voilà, on n'est pas au cirque, on n'est pas... c'est pas un pugilat, on est devant une cour d'assises, on est censé rendre la justice, et c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Et puis vient le moment où Sabrina monte à la barre, la victime oubliée.
Là, c'est le moment, je crois, le plus déchirant du procès.
Laure Moisset, journaliste, La Dépêche, L'Indépendant.
Parce qu'on a une survivante qui en fait revit ces moments-là qui sont d'une violence extrême et qui en plus, moi je l'ai ressenti comme ça, mais c'est vraiment ça, qui parle pour les autres, celles qui sont plus là pour parler. Cette douleur qu'elle a déversée à la barre, c'était sincèrement insoutenable. Insoutenable.
Après un réquisitoire sans surprise et un exercice de défense impossible, la cour d'assises de Perpignan se retire, puis rend son verdict.
Maître Xavier Caplet, l'avocat de Jacques Ronson.
Verdict attendu, programmé depuis très longtemps, perpétuité bien sûr, avec une peine de sûreté de 22 ans, ce qui est le maximum légal, et il n'a pas fait appel pour un résultat dont on savait que de toute façon il ne serait pas bien différent. Voilà.
Il a détruit la vie de ma fille.
Conception Gonzalez, la mère de Marie-Hélène Gonzalez.
Et aussi la nôtre. Il a détruit notre vie et celle de ses frères. Et pour nous, on va vivre le restant de notre vie avec l'image et le nom de celui qui a enlevé et assassiné notre fille.
Gilles Soulier, police judiciaire de Perpignan.
Alors, à titre personnel, vraiment une affaire marquante parce que également il y avait notamment la mère de Marie-Hélène Gonzalez qui passait nous voir régulièrement au service. Et en sortant, elle m'a fait signe, je suis allé la voir. Et cette femme m'a serré dans ses bras en pleurant et en me disant merci. Voilà. Je me dis rien que pour ça, tout le travail, toutes les années qu'on a passées, voilà, la récompense, elle était dans ces quelques secondes-là, dans les bras de cette femme en train de pleurer et me disant merci pour sa fille. Voilà. Donc à partir de là, le travail était fait, quoi.
La perpétuité.
Mais le parcours judiciaire n'est pas terminé pour Ranson. Lui aussi, il a un chiffre noir.
Oui. Dans le jargon des criminologues, le chiffre noir, ce sont les crimes qui ont échappé à la police. Et quand on connaît Jacques Ranson, son mode opératoire, la fréquence de ses attaques, on est en droit de se poser des questions. Je vous rappelle qu'entre sa sortie de prison en 1997 et son arrestation un an plus tard, il attaque tous les trois mois Mokhtaria, Sabrina, Marie-Hélène Gonzalez, plus cette femme qu'il a agressée dans sa voiture. Et dès sa sortie de prison, il revient dans la Somme où il tente d'étrangler une jeune femme après seulement deux mois de liberté. Et il se réinstalle à Perpignan en 2005.
Et là, plus rien.
Alors, Jacques Ranson explique que s'il n'avait pas rencontré Lolita, avec laquelle il a vécu pendant 8 ans, c'est sa phrase, Dieu sait s'il n'y aurait pas pu y avoir d'autres meurtres.
Et avant le premier viol en 92,
deux avocats spécialisés dans les affaires de cold case, Didier Seban et Corinne Herman, vont travailler sur des dossiers anciens, dont un meurtre et un viol en 1986, dans la Somme, d'une jeune femme qui s'appelait Isabelle Ménage.
Et la justice a accepté de rouvrir le dossier ?
Oui, bien sûr. Le corps d'Isabelle Ménage a été exhumé. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale a procédé à une autopsie et a observé des mutilations génitales sur son corps qui pourraient être la signature de Jacques Ranson. Jacques Ranson a été entendu. Il dit que c'est son premier crime. Il a avoué le viol et le meurtre d'Isabelle Ménage avant de se rétracter. En juin 2019, il était mis en examen pour ces deux crimes, viol et meurtre, et il devra en répondre devant une cour d'assises.
En prison, Jacques Ranson est à l'isolement, sans visite, en dehors de celle de ses avocats. Il dit parfois qu'il aimerait revoir Perpignan, mais c'est plutôt la cour d'assises qu'il devrait revoir encore.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites Entrer l'Accusé consacré au tueur de la gare de Perpignan. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites Entrer l'Accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ses destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.